Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à tous et bienvenue sur Conversations RH. Je m'appelle David et je serai votre hôte sur Conversations RH, la collection de podcasts d'échanges éclairés entre experts sur les sujets liés aux ressources humaines, aussi variés que les soft skills, le marché des cadres, la prise en compte des enjeux environnementaux, les assessment centers ou encore le management de transition. Conversations RH est un contenu qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Les experts LHH Recruitment Solutions vous ouvrent leurs portes et leurs micros dans des podcasts pour vous aider à aller plus loin. Connaissez-vous d'ailleurs le point commun entre la créativité, la pensée systémique, la pensée critique, l'intelligence émotionnelle, la réactivité ou encore l'adaptabilité? Eh bien, toutes ces attitudes sont des soft skills. Et oui, les soft skills prennent de plus en plus de forme et doivent nous permettre de nous adapter à un contexte et à un environnement pour évoluer tout au long de la carrière. Mais de quelle façon les définir précisément? Et comment les développer? Ont-elles évolué depuis la pandémie? Comment, en tant que manager, s'en saisir pour manager autrement? C'est à toutes ces questions et bien plus encore que nous allons répondre dans ce podcast avec l'intervention de trois experts du sujet. Bonne écoute! Jérémy Lamery, bonjour.
Bonjour.
Tu es auteur, conférencier, enseignant, entrepreneur, consultant, chercheur en psychologie sociale et directeur de l'innovation et des affaires publiques chez JobTeaser. Et parce que ce n'était pas assez, tu es également cofondateur de plusieurs entreprises spécialisées dans les soft skills. Séverine Bourgnon, bonjour.
Bonjour.
Tu es diplômée en psychologie du travail et directrice régionale à Marseille chez LHH Recruitment Solutions, spécialisée dans l'identification des liens entre l'homme et l'organisation. Et ton cœur de métier, c'est d'identifier et de faire ressortir ce qui rend un individu unique et spécial, ce qui le différencie des autres qui possèdent pourtant les mêmes diplômes et les mêmes compétences techniques. Laurent Da Silva, bonjour.
Bonjour.
Alors, tu as été directeur général chez Badenoch & Clark jusqu'à début 2022. Et Badenoch & Clark, c'est devenu LHH Recruitment Solutions. Est-ce que tu peux donner le coup d'envoi du podcast?
Bonjour à tous. Effectivement, 50% des recrutements de cadres en France échouent dans les 18 premiers mois en raison d'un problème d'inadéquation culturelle entre le candidat et l'entreprise. Pas du tout en raison d'un problème de hard skills, donc de compétences techniques, mais vraiment en raison d'un problème d'inadéquation culturelle. Et puis on a travaillé sur le potentiel, on a travaillé sur l'intelligence émotionnelle, on a travaillé sur les soft skills, en se disant que le plus important, c'était sans doute les soft skills. La capacité à apprendre, la capacité à se développer, tout un tas de compétences qu'on estimait essentiel aujourd'hui dans ce nouveau monde du travail et qu'il sera encore plus vraisemblablement demain. Donc voilà l'idée de base et c'est comme ça qu'on a réussi aujourd'hui à se développer, à devenir un acteur majeur du recrutement.
Allez, on va démarrer cet échange. Est-ce que Laurent, tu veux démarrer le podcast avec une première question à nos deux intervenants?
Jérémy, je sais que tu as beaucoup travaillé, que tu travailles beaucoup sur le schéma des soft skills. La notion même de soft skills est en fait assez aléatoire. On entend à droite et à gauche des gens avec des définitions souvent assez uniques et individuelles. Comment tu pourrais définir, toi, la notion de soft skills?
Alors, bonjour à tous. Et oui, tout à fait, sur les soft skills, on entend un peu de tout. Moi, j'en suis arrivé à créer ma propre définition, qui est que les soft skills peuvent représenter un matelas gonflable ou une chaise volante, suivant les situations. Parce que finalement, vraiment, on entend de tout. Donc déjà, quand on parle de soft skills, on parle de compétences. Donc, c'est-à-dire qu'on parle d'éléments actionnables qui sont sous-tendus par des capacités, des aptitudes, des traits de personnalité. Et si on devait résumer très simplement les soft skills, on pourrait dire que c'est l'ensemble des compétences qui dépendent des capacités à réfléchir et interagir. Et très souvent, malheureusement, dans les soft skills, on a tendance à prendre uniquement le côté interagir, donc tout ce qui va être lié vraiment à l'empathie, à ce qu'on appelle au gros concept de l'intelligence émotionnelle de Goldman, alors qu'il y a beaucoup plus derrière. Si on prend par exemple la créativité, si on prend la pensée systémique, si on prend le développement de soi, si on prend la pensée critique, ce sont des compétences qui sont vraiment sous-tendus par des processus très cognitifs, très peu émotionnels. Et donc, ça montre bien que dans les soft skills, on n'a pas que ça. Globalement, une soft skill, c'est une compétence qui ne nécessite pas de connaissances particulières pour être activée.
Alors, j'ai envie de revenir tout de suite sur un point. Les soft skills se travaillent et se développent. Puisque l'intelligence émotionnelle se travaille et se développe. Est-ce que tu as des exemples de formation ou de méthodologie pour développer ces soft skills et, sur l'intelligence émotionnelle ou sur d'autres types de compétences?
Oui, on a des. Enfin, quand on regarde un peu les pédagogies alternatives, innovantes ou oubliées, on a beaucoup d'exemples qui développent beaucoup mieux les soft skills que les formations qu'on peut connaître aujourd'hui. On prend l'exemple des écoles Montessori qui sont assez récentes. C'est né au début du XXe siècle. Les pédagogies Montessori sont très basées sur l'utilisation des sens, et on pourra y revenir après. Mais les sens sont la clé du développement des soft skills. On peut aussi penser à quelque chose de beaucoup plus ancien comme l'école socratique, où il s'agit de développer l'esprit critique par le débat, par le débat et la remise en question. En fait, la recherche permanente de la vérité. Donc on est dans des méthodologies comme ça qui sont en fait aujourd'hui appelées alternatives ou oubliées, et pourtant qui devraient être au cœur de l'enseignement. Je prends un autre exemple. Aujourd'hui, dans le coaching, on fait ce qu'on appelle des codevs. Donc des petits groupes de personnes qui cherchent à résoudre en communauté leurs challenges respectifs. Et ça fait appel à une nécessaire ouverture émotionnelle, à une tolérance, à une acceptation de soi, de l'autre, montrer sa vulnérabilité. Et tout ça, en fait, ça développe énormément un grand nombre de soft skills liés aux émotions.
Effectivement, les soft skills, on les appelle soft skills depuis quelques temps. Moi, depuis que j'opère dans le métier, on va dire, du conseil RH, finalement, ce qui m'a toujours intéressé, c'est tout ce qu'il y a autour de la compétence technique. Et ce qui fait, à un moment donné, que le tableau va prendre vie parce qu'il y aura de la couleur, que le plat va avoir de la saveur parce que ça va être épicé, et du coup, que la rencontre entre l'individu, le candidat pour nous, et l'entreprise, l'organisation, la mission, va se faire. Aujourd'hui, on parle de soft skills. Par le passé, on parlait de savoir-faire, de savoir-être. Finalement, tout ça, ce sont des évolutions, mais c'est ce qui permet surtout de dépasser le dogme du diplôme, de la compétence technique, et de s'ouvrir à plein d'autres choses. Et c'est vraiment ce sur quoi on travaille effectivement au quotidien.
Alors, sur cette thématique-là, on voit aussi qu'il y a une accélération du sujet, je trouve, depuis un an et depuis la pandémie. On a tous pris conscience, et c'est devenu même un débat partagé par beaucoup de chercheurs en RH, de l'importance des soft skills, et en particulier de savoir manager autrement. Et ça m'intéresse de savoir, Javi, si toi tu as vu, entendu des débats sur ces sujets-là ou des bonnes pratiques que tu pourrais nous partager.
Des débats, oui, j'en ai vu. Moi, c'est un sujet sur lequel j'évolue depuis une dizaine d'années. C'est en 2012, hein, j'ai lancé Monkitaille. Et l'objectif de Monkitaille, c'était justement de dépasser le diplôme et de recruter. À l'époque, j'appelais pas ça les soft skills, puisque je connaissais pas encore très bien le sujet. Et donc, je partais du principe qu'il y avait deux éléments qui étaient mal pris en compte dans le processus de recrutement, qui étaient liés notamment à la personnalité et aux valeurs. Tout ça déterminait le fit avec le manager, avec le poste, avec l'entreprise. Et en fait, on a commencé Monkitaille sur cette proposition de valeur en recrutement, puis ensuite on l'a adapté à la mobilité interne. Mais en recrutement, en fait, on s'est retrouvé face à des entreprises, des grandes entreprises, par exemple, enfin, que ce soit des banques, que ce soit, enfin, dans la banque assurance, c'était très très dur le discours au début, où on expliquait la démarche. Et en fait, on nous disait, mais votre truc personnalité, valeur, c'est bien, mais on recrute pas les gens parce qu'ils sont gentils. On recrute les gens parce qu'ils savent faire des choses. Et donc, le discours que tu tenais à l'instant de dire, ben oui, mais la moitié des recrutements échouent et c'est pas à cause des compétences techniques, c'était pas entendu à l'époque. Et ça a évolué. J'ai vu un vrai changement à partir de 2016. À partir de 2016, ça a commencé à évoluer jusqu'au Covid. Et moi, je trouve que pendant l'année Covid, le marché s'est un peu rétracté là-dessus. J'ai eu l'impression qu'il y a, c'est peut-être l'anxiété ambiante, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un retour un peu sur les codes du diplôme, de tout ça, parce que peut-être il y avait plus de candidats sur le marché, et peut-être aussi moins de recrutement, une peur plus grande de se tromper, et donc on revient un peu à des vieux réflexes. Et là, depuis mars, moi je suis sollicité, je pense, une quinzaine de fois par semaine par des entreprises qui veulent lancer des démarches soft skills. Donc là, il y a une explosion. On le sent vraiment, et les trois questions qui reviennent tout le temps, c'est je ne sais pas ce que sont les soft skills, les gens en ont besoin. Je ne sais pas comment les identifier et les évaluer, et je ne sais pas comment les développer.
Et ça me fait penser à un point, parce que les soft skills, effectivement, on en parle, tu l'expliques bien, on voit que ça évolue. En revanche, dans l'éducation, dans les grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, moi, je vois pas de cours sur les soft skills, je vois pas de cours sur les compétences molles. On reste sur des dimensions très techniques. Est-ce que c'est pas un peu le mal français? Un, c'est cette culture du diplôme, donc du clonage. Et deux, le fait qu'on appréhende que très peu la notion de soft skills, à part quelques grandes écoles qui s'y mettent. Je crois qu'il y a HEC notamment qui commence à s'y mettre assez fortement. Mais au-delà de ça, je vois pas grand chose sur le marché.
Bah, t'as raison. Non, mais clairement, t'as raison. Pour moi, il y a deux éléments. Le premier, c'est la notion même de soft skills qui est encore pas très bien intégré dans les universités, dans les écoles d'ingénieurs, dans les écoles de commerce. Ça commence un peu puisque je pense qu'il y a une guerre entre les écoles qui est un peu plus importante et ils commencent vraiment à le voir comme un différenciant. On a l'exemple du pôle universitaire Léonard de Vinci qui s'est doté d'une directrice des soft skills. On a l'exemple de l'EM Normandie qui a une démarche soft skills intégrée dans le parcours d'orientation. Et globalement, ça, c'est les deux exemples clés en France. Sinon, en fait, ça reste encore assez anecdotique. Et la raison, c'est que dans le parcours pédagogique des étudiants aujourd'hui, les professeurs sont assez peu sensibilisés à ce sujet. Et quand on met un cours, il faut enlever un autre cours. Et aujourd'hui, c'est très compliqué de changer les programmes, de mettre des cours de soft skills pour enlever un cours d'autre chose. Et la clé, nous, chez Jobteaser, on est vraiment spécialisé sur l'accès à l'emploi des jeunes de l'enseignement supérieur. Donc, on voit les services pédagogiques et carrières tous les jours des établissements d'enseignement supérieur. Quand on veut développer des soft skills, le meilleur moyen, c'est de l'intégrer dans l'enseignement courant. Apprendre le marketing autrement, apprendre l'anglais autrement, et les professeurs sont pas formés. Je pense que la clé du développement des soft skills dans l'enseignement et l'enseignement supérieur, c'est former les professeurs à former différemment.
Alors, une question encore, c'est comment mesure-t-on les soft skills, en fait? Puisque là, en ce moment, je suis en contact avec différentes startups qui travaillent sur des projets de mesure des soft skills pour essayer d'en faire un TOEFL, bref, un indicateur où on puisse se dire, tiens, voilà, j'ai 600 en soft skills. Est-ce que toi, dessus, tu as un avis à partager avec nous?
Alors moi, j'ai mené mon doctorat précisément sur les compétences qui déterminent la performance professionnelle chez les cadres et les managers, avec la volonté, à la sortie du doctorat, de créer un outil d'évaluation des soft skills. Mes presque 4 années de doctorat et les deux ans qu'on suivit m'ont prouvé une chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas décemment prétendre mesurer et évaluer les soft skills. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une soft skill n'existe pas tant qu'elle n'est pas utilisée dans un contexte donné. Donc en fait, on peut identifier des contextes. C'est ce que Pôle emploi fait, par exemple, par le recrutement en mise en situation. C'est Pôle emploi va dire, voilà, je vais identifier la capacité à gérer telle situation. Et en fait, quand on va recruter la personne après, on va se dire, cette personne, elle a pas telle soft skill, elle sait gérer telle situation. Ça, on peut le faire. On peut le faire, c'est assez facile. Aujourd'hui, si on veut identifier les soft skills de manière assez poussée et fiable, le seul moyen qui existe, c'est des assessment centers comme ceux qui peuvent exister dans les grands cabinets. Je pense que Adecco a un très très bon assessment center. Et ça, en fait, c'est des professionnels qui sont là et qui évaluent et qui sont formés pour ça. Le fait d'évaluer de manière automatisée, puisque c'est de ça qu'on parle.
Ah oui.
Évaluer de manière automatisée, ça ne peut être valable que sur certaines situations. Les acteurs aujourd'hui logiciels qui prétendent pouvoir évaluer les soft skills en vous évaluant votre personnalité, vos aptitudes cognitives et qui disent ça c'est les soft skills, c'est tout simplement mensonger et ça ne présume en aucun cas de la capacité à l'utiliser dans les situations qui seront celles du métier.
Donc la mise en situation, c'est le facteur clé de succès pour toi?
Oui.
Ok. Séverine, est-ce que de ton côté tu as vu une évolution dans les demandes des clients ces dernières années et peut-être en particulier depuis un an? Jérémy parlait d'une explosion là dernièrement du sujet. Est-ce que tu veux nous faire un retour de marché comme on dit?
Alors, je dirais que la tendance, elle est quand même plutôt positive, même si on a parfois des petits sursauts sécuritaires qui nous amènent, alors quand je dis qui nous amènent, c'est qui amènent les entreprises, à revenir sur des éléments rassurants que sont le diplôme, l'expérience. Et trop souvent, nous, on les entreprises nous demandent, nous envoient une job desk et nous demandent de mettre le candidat en face. Et le candidat en face, c'est le candidat qui a la bonne expérience et souvent un inventaire à la Prévert de qualité personnelle. Pour autant, de plus en plus, il y a quand même cette ouverture. Alors, il y a un mouvement également global et les entreprises s'y ouvrent. Il y a quand même de plus en plus de l'ouverture à elle l'appelle pas forcément soft skills d'ailleurs, et c'est pas très grave, mais à tout ce qui va faire que la personne, le candidat, l'individu, va répondre au mandat qui lui est confié. Et pas uniquement faire du plug and play par rapport à une job desk, très figée. Et c'est là où, effectivement, ce que disait Jérémy sur la notion de contexte, finalement, la soft skills, elle se met en œuvre dans un contexte donné. C'est comme le talent, c'est comme plein de choses. Ça peut s'éteindre comme ça peut se développer dans un contexte donné. Et les entreprises répondent de plus en plus favorablement à cette idée de dynamique, en fait. Où les choses sont pas figées, mais vraiment dans une dynamique.
Alors, en t'écoutant, je pense à un point. Est-ce qu'il y a des soft skills particulièrement développées chez les jeunes diplômés ou d'autres qu'on va retrouver plus fortement développées chez les seniors? On sait que le marché de l'emploi aujourd'hui, même s'il rebondit très fortement, il y a toujours deux populations qui sont en difficulté, les jeunes diplômés et les seniors. Est-ce qu'on peut voir des traits de compétences plus souligné sur ces deux populations?
Bon, alors je vais faire la réponse politiquement correcte qui va bien. Bon, alors Laurent, il faut surtout pas généraliser. Mais mais globalement, en fait, je dirais que si on regarde sur les juniors, non, je vois pas de soft skills particulièrement plus développés que chez un senior. En revanche, le contraire est pas vrai.
Est-ce que dans l'agilité, par exemple, on dit souvent les jeunes dans l'agilité sur ou la capacité à apprendre?
Non, je suis pas d'accord. Pour le coup, je suis pas d'accord, puisqu'en fait, la capacité à apprendre, l'agilité, sont des aspects qui sont complètement sous-tendus par des traits de personnalité. Et ça dépend pas d'un âge, d'une génération ou de l'expérience professionnelle. Ça va vraiment dépendre de catégories de population, de personnes, et c'est complètement aléatoire. Donc, en revanche, chez les seniors, on va retrouver certaines soft skills qui ont nécessairement été travaillées dans l'expérience. Là, attention, je parle surtout des cadres et managers. Donc, mais on va retrouver certaines soft skills qui sont plus développées que dans la moyenne des jeunes. Par exemple, si on pense à la capacité d'anticipation et la pensée systémique. Donc, ça va être vraiment la capacité à prévoir les conséquences d'une action donnée. Il y a plein de jeunes qui peuvent avoir ça, mais on le retrouve plus souvent chez les personnes expérimentées. Pourquoi? Parce qu'elles ont de l'expérience. Elles ont vécu plus de situations et donc elles projettent. On a aussi sur, par exemple, l'autogestion, l'auto-organisation. Chez les cadres et managers, à un certain niveau d'expérience, et je pense que ça commence à peu près à 4-5 ans d'expérience, on commence à avoir une autogestion qui est nettement supérieure à ce qu'on peut retrouver chez la moyenne des juniors, par exemple. Donc oui, on a certaines soft skills qui peuvent être plus développées chez des profils seniors. Quand c'est chez les juniors, je me hasarderai pas à faire des pronostics.
D'accord.
Et Jérémy, si je peux me permettre juste une petite question par rapport à ça, je trouve ça assez intéressant. Finalement, on a tendance à identifier des soft skills chez les seniors, des soft skills chez les juniors, mais finalement, est-ce qu'ils se sont pas juste adaptés à l'organisation et aux attentes des entreprises, parce qu'il y a 40 ans, les entreprises n'attendaient pas de leurs collaborateurs les mêmes compétences comportementales. Et est-ce que c'est pas ça qui leur colle un peu à la peau aujourd'hui?
Alors, exactement. Déjà, il y a toute la représentation sociale qu'on se fait des plus seniors. Ils sont plus seniors, donc ils sont moins agiles, alors que c'est complètement faux. C'est exactement ce que tu dis, Séverine. C'est à savoir, en fait, il y a 40 ans, on demandait pas aux gens d'être créatifs et de tout ça. On est dans une société où il fallait suivre des procédures, suivre des process, suivre la hiérarchie. Et plus on faisait ça, plus on montait. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Et en fait, ce qu'on regarde, c'est que, allez, 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, dans toutes ces personnes-là, il y en a qui sont rentrées dans le moule, qui sont résignées et qui ont perdu un peu, qui ont arrêté de développer toutes ces soft skills qui étaient liées à des traits de personnalité qui étaient peut-être pas trop forts chez eux, donc ils pouvaient les réprimer. Et puis il y a tous ceux qui, pour qui c'était la nature, et ceux-là, ils sont toujours aussi agiles, créatifs, tout ce qu'on veut. C'est un peu les profils qu'on va un peu appeler les ovnis parfois dans les entreprises classiques. Mais c'est des profils aujourd'hui que toutes les boîtes cherchent. C'est d'ailleurs, c'est marrant de voir dans les boîtes du CAC 40 notamment, les boîtes sont prêtes à payer très cher pour faire rentrer ces profils-là et ensuite à payer très cher pour les faire sortir.
C'est intéressant, et puisqu'on est un peu dans le débat, je vais mettre sur la table un sujet un peu polémique. Est-ce qu'il y a des soft skills masculins, des soft skills féminins? On est en train de parler de féminisation des CODIR. Il y a beaucoup d'études qui montrent que des CODIR plus féminisés apportent autre chose, voire sont plus performants. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des soft skills qu'on identifie plus chez les femmes et qui ont un impact positif. On parle souvent de l'empathie, notamment. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? Parce que là, c'est une question pour tous les deux.
Alors moi, personnellement, je vais pas me hasarder sur le sujet. J'ai pas de stats. J'ai pas de statistiques, donc je peux pas m'exprimer. Ce que je peux dire, ce que j'ai vu des études, c'est que les groupes où il y a le plus de diversité sont plus performants dans le temps. Et plus régulier dans la performance. Donc ça, on peut le dire. Et donc effectivement, un groupe où il y a plus de femmes que dans un groupe où il y a moins de femmes, c'est un groupe plus diversifié. Donc ça se tient. Après, sur les côtés empathie, tout ça machin, faudrait que je regarde des études. Mais là, sincèrement, on connaît aussi des boîtes où c'est très militaire et ça marche très bien.
Donc pour toi, la clé, c'est la diversité des équipes. Donc effectivement, la féminisation contribue à cette diversité.
Alors, la féminisation, mais pas que, c'est aussi tous les sujets d'inclusion et de diversité.
Bien sûr.
C'est-à-dire des milieux sociaux différents, des origines ethniques différentes. C'est vraiment pas juste le sujet femme-homme, c'est tout le sujet de la représentativité de la société.
Séverine, de ton côté, tu as un feedback à nous partager?
Alors, en tant que femme ou en tant que professionnelle?
Les deux.
Non, sincèrement, je saurais pas dire, parce qu'effectivement, il y a les a priori, comme les a priori sur les seniors versus les juniors. Pour autant, c'est pas nécessairement éprouvé. Les hommes sont pas tous identiques, comme les femmes sont pas toutes les mêmes non plus, et tant mieux. Par contre, ce qui est certain, c'est que la complémentarité fait la richesse. Donc, quel que soit d'ailleurs le background qu'on peut avoir, hein, femme, homme, le background social ou le background académique, dans tous les cas, ça crée de la complémentarité et effectivement, c'est ce qui fait que ça fonctionne bien en général.
Jérémy, comment ont évolué les RH sur ces sujets depuis 20 ou 30 ans ?
Bah, globalement, en fait, là, c'est ce que je vois sur le marché. C'est quand on regarde un peu le marché RH, il fonctionne beaucoup par cycle, avec des vagues d'innovation. Et on a eu à peu près à la fin des années 90 une première vague d'innovation avec les gros job boards, avec tout ça. Puis après, vers la fin des années 2000, on a eu une nouvelle vague d'innovation qui est arrivée. Et ça a repris à peu près en 2015. Et ce qui a beaucoup porté en 2015 la vague d'innovation dans les RH, c'était beaucoup ce qui était qualité de vie au travail. Tout ça. Et ça a mené un peu des réflexions sur le recrutement, sur la formation, sur la fidélisation. Je veux dire, il y avait peut-être un prisme un peu trop fort sur la notion de qualité de vie telle que c'était fait, parce qu'on parlait de bonheur au travail, on est les chief happiness officer, tout ça. Et là, je pense qu'on revient à quelque chose d'un peu plus... en gros, le sujet a un peu décanté et on voit ce qu'il y a derrière. Et ce qu'il y a derrière, en fait, c'est vraiment les qualités personnelles des individus qu'on recrute et qu'on développe.
Moi, j'ai un petit commentaire... On parlait des évolutions, hein, de l'importance des soft skills. On voit surtout maintenant, on est tous en train de réfléchir à la nouvelle organisation du travail, au travail de demain, aux nouvelles compétences de demain. Et on peut lire dans la littérature que vraisemblablement, les managers de demain devront avoir d'autres compétences que les managers d'hier, puisqu'ils auront moins leurs équipes avec eux, moins ensemble avec eux, et qu'il y a cette notion d'équilibre aussi vie pro, vie privée, qui grandit chaque jour de plus en plus. Effectivement, ce management militaire dont tu parlais tout à l'heure, bah, il est en train de disparaître, ça marche plus, et c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, on parle toujours et encore plus de culture de la performance. Donc on est en train de manager l'ambiguïté en disant aux gens, voilà, en fait, faites ce que vous voulez, télétravaillez. Néanmoins, culture de la performance, ce sera le juge de paix au final pour évaluer vos capacités. Donc, le manager, il perd un peu ses repères, en fait. Il a moins ses équipes sous la main, il peut un peu moins les coacher, les faire grandir, ou en tout cas différemment, vraisemblablement. Et je pense que tout ça, ça va faire apparaître de nouveaux besoins et de nouvelles compétences dans comment j'autonomise mes équipes. Comment je responsabilise. Et je suis assez curieux de savoir comment vous voyez les choses de votre côté, Jérémy et Séverine. Est-ce que d'ores et déjà, les DRH et les candidats ont pris ces points-là en tête? Est-ce que les DRH nous en parlent? Est-ce que les candidats commencent à l'aborder dans leur présentation de leur parcours en disant « je sais rendre autonome mes équipes, je sais intervenir au bon moment et donc je sais aussi avoir de l'impact ». Parce que comme je suis pas tout le temps avec, il faut que j'ai un impact qui soit sans doute avec plus d'intensité. Voilà, votre avis m'intéresse, comme on dit.
Je t'en prie, Séverine.
Effectivement, à chaque mouvement de société, en fait, presque, il y a l'émergence de nouveaux modes de travail et du coup, par effet rebond des compétences comportementales nouvelles, mais pour le manager comme pour le collaborateur. Hein, échanger par Teams, on a tous appris à le faire, en tout cas de manière encore plus développée à partir de la crise Covid. C'est une peut-être une compétence comportementale. Donc le manager et les collaborateurs s'alignent. Aujourd'hui, dire quelles compétences comportementales ont été impactées, on parle beaucoup aussi dans les entreprises de capacité à réseauter, à networker, à travailler en transversalité. Vraisemblablement, c'est une compétence comportementale qui est challengée dans le contexte actuel. La posture managériale aussi. Après, à ce stade, moi, de manière empirique, j'ai pas constaté réellement, je saurais pas dire quelle compétence est particulièrement mise en exergue.
OK.
Alors justement, Jérémy, toi, quel point de vue tu as sur cette capacité, ce soft skill de réseauter, de networker? En quoi le Covid a impacté ça et est-ce que ça a changé aujourd'hui? Comment, selon toi?
Alors, je pense que le Covid a rien changé, il a accéléré des choses, mais je pense pas que le Covid ait changé quoi que ce soit. C'est, on a peut-être gagné plusieurs années sur ce qui était en train d'arriver de toute manière. Quand on regarde, en fait, on voit aujourd'hui les nouveaux modes de travail sont beaucoup portés par ce qu'on peut voir des startups californiennes notamment. Hein, c'est même si on a des excès, on voit que ça finit par arriver dans les entreprises. Je prends l'exemple du modèle des OKR qui repose sur un management de la performance plutôt qu'un management par tâche. Je vois sur le principe du fonctionnement des réunions, le fonctionnement de plus en plus asynchrone, c'est aujourd'hui dans les entreprises qui sont poussées par la croissance et l'hypercroissance, puisque c'est ça le sujet. Hein. Si on veut plus de croissance, donc il faut que les collaborateurs aient une très forte contribution. Et donc, ça veut dire que la clé dans une société comme celle-là, c'est l'efficacité personnelle. L'efficacité personnelle à tous les niveaux, ça veut dire pour son propre travail, dans la collaboration, mais aussi dans le développement des personnes qui sont, en fait, dans des entreprises où l'entreprise grandit plus vite que le collaborateur. La clé du collaborateur, c'est l'efficacité personnelle pour faire son travail et pour se développer lui-même, sans attendre qu'on lui donne une formation ou quoi que ce soit. Donc oui, ça implique le réseau, ça implique tout ça. Je prends un exemple aujourd'hui, des collaborateurs qui ont une efficacité personnelle développée dans des sociétés comme ce qu'on appelle les scale-up, sociétés en hypercroissance. Par exemple, ça n'arrive plus d'avoir une réunion où quelqu'un présente un PowerPoint. C'est juste complètement hallucinant de faire ça. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va faire une note de deux à six pages. Tout le monde va la commenter. Et si jamais il y a des commentaires qui sont insolubles, des sujets sur lesquels on ne peut pas répondre, alors on organise une réunion. Et la réunion, elle fait pas deux heures, elle fait 30 minutes. Donc il y a tout un tas de pratiques comme ça qui sont en train d'arriver, où le sujet, c'est l'efficacité personnelle sous toutes ses formes. Et je pense qu'en fait, en vrai, on parle d'une société où ça donne plus de chance, où c'est plus ouvert. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus dur pour les personnes qui ne sont pas formées au code de l'efficacité personnelle. Donc, par exemple, des gens qui ont fait prépa, malgré tout, sont quand même favorisés. Parce que quand on n'a pas l'habitude de, j'ai envie de dire, désolé pour le langage, mais de tabasser comme ça au boulot, l'adaptation va être très, très dure.
C'est intéressant ce que tu dis, parce que à un moment, là, en ce moment, on a beaucoup parlé de Parcoursup, on a beaucoup parlé de diversité, on est en plein dans l'actualité. La notion des prépas, les prépas avaient un peu moins le vent en poupe ces dernières années. Et toi, tu dis, parce qu'on, quand on pense à prépa, on pense à hard skills, on pense à méthode. Et toi, tu dis, au contraire, ces méthodes-là vont être hyper utiles demain pour travailler l'efficacité et pour travailler même l'agilité, la capacité à avoir de l'impact sur l'entreprise.
C'est-à-dire qu'on peut reprocher énormément de choses au fonctionnement des classes prépa. En revanche, ça apporte quand même capacité à assimiler de très grandes quantités d'informations en très peu de temps et à développer des méthodes d'efficacité personnelle assez poussées pour tenir le rythme. Et donc, juste sur cet aspect-là, ça donne un avantage. Après, j'imagine, ça donne aussi un désavantage sur plein de choses, le fait d'être extrêmement scolaire, de très peu ouvrir la créativité. Mais je vois aussi que tous ces parcours-là vont évoluer.
Jérémy, les soft skills se développent. Pour autant, qu'est-ce qui va permettre à un moment donné à un collaborateur, un individu, de développer tel ou tel soft skills? Est-ce que tous auront la même capacité à développer les soft skills et quoi faire concrètement?
Alors, merci Savine, c'est une grosse question. Et il faut savoir que sur le sujet de l'apprentissage des soft skills, même les chercheurs n'ont pas de vérité complètement arrêtée encore. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'on ne développe pas des soft skills directement. On développe les capacités et les aptitudes qui sous-tendent les soft skills. Par exemple, je prends l'exemple de la communication, on ne développe pas la communication. On développe l'écoute active et la communication orale, qui sont les deux grandes composantes de la communication. Et en fait, dans l'écoute active et dans la communication orale, on va avoir plusieurs niveaux. Au premier niveau, il s'agit simplement d'être capable de résumer une conversation. Au deuxième niveau, ça va être capable de demander des reformulations et de préciser, et ainsi de suite. Et donc, en fait, c'est pour développer ces capacités-là, ça repose sur deux grandes composantes, la composante cognitive et la composante émotionnelle. La composante cognitive, c'est notre capacité d'apprendre, d'apprendre à apprendre. Et la composante émotionnelle, c'est notre capacité à gérer nos émotions et celles des autres. Et en fait, ça, c'est, y a pas de secret, hein. C'est deux facteurs, c'est la pratique et l'envie. Et l'envie pesant pour beaucoup dans le sujet, comme on dit, on fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Bah, avec les soft skills, c'est particulièrement vrai. Je pense que le truc le plus important à retenir sur le développement des soft skills, c'est que les soft skills, elles sont censées nous permettre de nous adapter à un contexte et à notre environnement. La seule manière que l'être humain a de s'adapter, c'est de percevoir. On s'adapte uniquement parce qu'on se rend compte que notre environnement change, et on s'en rend compte parce qu'on voit, parce qu'on entend, parce qu'on sent, etc. Et donc, en fait, c'est nos sens qui nous permettent de nous adapter. Donc, en fait, la base du développement des soft skills, c'est la perception. Donc, pour commencer à bien développer les soft skills, il faut améliorer la perception. Un principe qu'on connaît bien en gestion de la donnée, en data, c'est shit in, shit out. Si vous recevez pas de la bonne info, vous en ferez pas grand chose. Et donc, pour commencer à développer les soft skills, on commence, c'est le cas des méthodologies Montessori, hein, on commence par développer les perceptions. Perception générale. On augmente la perception des sens, et ensuite on fait travailler cette perception des sens dans un contexte particulier.
Ok, merci beaucoup. Et du coup, si tu avais un conseil très pratico-pratique et très facile à mettre en œuvre, à donner aux candidats, quel serait-il ?
Je pense que la meilleure chose qu'une personne puisse faire pour progresser, c'est demander des feedbacks. C'est la clé de tout, parce que ça implique déjà une vraie humilité, une vraie capacité à recevoir le feedback, et donc ça veut dire se mettre dans une posture où on accepte d'être challengé et d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment la première chose, c'est demander des feedbacks, et une fois qu'on a pris ce feedback, c'est mettre en place quelques actions simples. C'est si par exemple tu dis à la personne, est-ce que tu penses que je t'ai assez écouté? Et la personne vous dit, en fait non, j'ai eu l'impression que t'étais un peu ailleurs ou quoi que ce soit. Ok, qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Juste en fait vraiment écouter, être capable de comprendre ce que je dis, et vous mettez quelques petites actions simples. Ça peut être sur vraiment n'importe quel sujet, parce que les soft skills sont dans tout ce qu'on fait dans notre vie, sans que ça vienne à toucher votre confiance en vous. C'est prenez-le comme un jeu, demandez des feedbacks. Ça, c'est vraiment la meilleure méthode que je puisse conseiller en auto-développement.
Merci beaucoup.
Je l'ai pas dit, mais en fait c'est vrai que je l'ai senti sur le marché, que depuis 2016 les soft skills, c'est vraiment sur le terrain, et en fait on a fait une analyse avec Google Trends.
Ouais.
Et tu regardes le sujet soft skills depuis 2004, ça fait comme ça et...
Ah ouais. En 2016.
Ouais, depuis 2016 le truc n'arrête pas c'est une croissance continue.
Et il y a eu un événement en particulier en 2016 ?
Non, ce que je sais, c'est que depuis 2016 le nombre de requêtes a été multiplié par 8 sur les soft skills. Donc Google Trends est hyper intéressant
pour
les mouvements de marché.
C'est clair.
Allez, on va aborder un dernier sujet. Selon vous, Laurent, Jérémy, Séverine, quels soft skills vous avez le plus acquis au cours de votre carrière ? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez le plus développé ? Alors, on est dans une partie un peu témoignage là, mais ça peut être intéressant pour nos auditeurs également, je crois.
Je vais me lancer. Bon, déjà, en fait, il faut savoir qu'il n'existe pas de référentiel unique de soft skills. Donc, si ça se trouve, tous les trois, on va parler de la même chose en utilisant des mots différents ou utiliser les mêmes mots pour parler pas des mêmes choses. Et c'est OK. C'est OK, il n'y a pas de vérité sur le sujet. N'importe quelle boîte aujourd'hui peut se créer sa vérité sur les soft skills. Donc, moi, de mon côté, ce que j'ai le plus développé dans mon parcours professionnel, ça va être vraiment tout ce qui va être communication, collaboration. Donc, c'est la notion d'écoute active, notion d'expression orale, où sans ça, on n'existe pas en entreprise, ces deux choses-là. Derrière, la notion de collaboration, ça va être d'une part la capacité à comprendre le rôle de chaque personne et de contribuer au bon niveau. Et après, je pense, c'est la pensée systémique. Pensée systémique, autogestion, pensée systémique, vraiment, je me suis rendu compte que c'est un truc d'une part que j'aimais, mais en plus qui faisait, c'est aujourd'hui, c'est mon intérêt dans une entreprise, c'est ma contribution, c'est d'être capable de non pas simplement penser le poste ou le sujet, mais de penser un sujet dans sa globalité pour comprendre les implications sur l'ensemble de la structure. Ça, c'est, je me rends compte, c'est ce que j'aime faire et c'est ce que j'ai développé dans mes expériences.
Et toi, Séverine ?
Bah, finalement, c'est très en lien avec ce que disait Jérémy, mais en même temps, on opère un peu dans les mêmes environnements, donc c'est peut-être pas tout à fait illogique. La communication dans tout son champ. Donc, la communication dans l'écoute, dans recueillir l'information, dans analyser l'information, la reformuler et aider, comme on le disait, hein, les entreprises, les candidats à sortir finalement de leur vision classique d'un poste, par exemple. Et ensuite, la communication, parce que il faut ensuite faire passer les messages, que ce soit dans le cadre de mobilité, que ce soit dans le cadre de recrutement. Donc voilà, tout ce qui couvre vraiment la communication, bien sûr, c'est notre quotidien.
Alors moi, je dirais que notre métier, c'est d'écouter. Donc, c'est pas surprenant que tous les deux, vous ayez mentionné l'écoute. L'écoute de nos clients, très important, avec tous les signaux faibles notamment. L'écoute de nos candidats, c'est hyper important. Donc l'écoute, c'est effectivement une compétence que moi j'ai développée tout au long de ma carrière. Et je rajouterais, en tant que patron, en tant que manager, que l'intelligence émotionnelle, la capacité à comprendre l'état émotionnel des équipes, la capacité aussi à doser mes messages pour être sûr qu'ils soient perçus au bon niveau d'émotion, c'est quelque chose que je travaille en permanence. Là, pour le coup, je pense qu'il y a un impact Covid, puisque là, on était moins que les équipes, donc ça se jouait au téléphone, ça se jouait en Teams, et j'avais besoin de ressentir, de savoir dans quel état étaient les équipes. Et certains géraient bien à ce moment-là, d'autres moins bien. Et donc, j'avais besoin d'adapter mon discours aussi aux personnes. Donc, je pense que l'intelligence émotionnelle, pour les managers, pour l'ensemble des managers que nous sommes, c'est un point important et sur lequel je m'attache, moi, à travailler en permanence.
Séverine, Laurent, est-ce qu'on peut faire une petite conclusion pour clore ce podcast?
Alors, moi, je veux bien prendre la main pour commencer, ça vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Moi, je dirais qu'on est à un moment où le marché des cadres rebondit beaucoup plus fortement qu'on pouvait l'imaginer, ce qui est une très bonne nouvelle. Et je pense qu'on doit profiter absolument de ce moment pour recruter autrement, pour arrêter ce problème français dont on a parlé, du clonage, la culture du diplôme, et recruter beaucoup plus sur le potentiel. Donc les soft skills, est-ce que le potentiel versus les soft skills, à la limite, je rentre même pas dans le débat. Il y a un ensemble, en tout cas, de compétences hors les compétences techniques qui sont absolument essentielles. Donc moi, je dirais, il faut que on aide ce marché français de l'emploi à évoluer et à pas être tétanisé et à se réfugier vers le diplôme. Non, ouvrons nos chakras et allons vers le potentiel.
Séverine, dernière question. Quel avenir pour les soft skills? Qu'est-ce qu'il faudrait retenir pour les candidats, pour les recruteurs aussi?
Un avenir, bien évidemment, très, très positif et favorable. Ce que je trouve intéressant, c'est de se dire qu'il n'y a pas un catalogue strict de soft skills et que les candidats, ce qu'il faut qu'ils retiennent, c'est qu'ils ne doivent pas coller systématiquement. En fait, il ne faudrait pas que les candidats, comme par le passé, avec plutôt de la compétence technique, désormais soient guidés par le développement de tel ou tel soft skills parce qu'ils auraient identifié que c'était les soft skills qu'il fallait absolument développer. Et ce qu'on s'est dit aujourd'hui, c'est que finalement, il y en a de nombreuses, qu'elles évoluent, que les candidats peuvent les développer. Donc, c'est plutôt de faire ce travail de réflexion, d'analyse de leur parcours, de leurs expériences sur qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai fait et qu'est-ce qui m'a permis à un moment donné d'être en succès. Et ça leur permet de très vite mettre le doigt sur les soft skills et de donner du sens aussi à un moment donné à une expérience, à un parcours pour le mettre en valeur auprès des recruteurs que nous sommes et plus globalement des entreprises.
Jérémy, même question. Du point de vue des candidats et des recruteurs, quel avenir pour les soft skills?
Moi, j'aimerais conclure sur le sujet du sens. C'est aujourd'hui, par exemple, une entreprise va de plus en plus se dire, moi, j'ai besoin que vous ayez tel soft skill pour bosser, tout ça. Et en fait, il faut pas que ce soit un objectif en tant que candidat de se dire, j'ai besoin de ces soft skills pour ce job. On devrait jamais chercher à se développer juste pour un job. Pourquoi? Parce que si on fait ça juste pour un job, on sera pas forcément engagé dans ce job. Si on doit être assez clair sur ce qu'on veut, en fait, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans sa vie? Qu'est-ce qu'on attend de sa vie? Et les soft skills, elles devraient servir à ça parce que, en fait, il faut savoir que la moitié du développement d'une soft skill, c'est porté par l'envie de la développer déjà. Donc, à partir du moment où on a un focus sur une soft skill en particulier, qu'on a envie de la développer, qu'on est porté dessus, c'est comme quand on est enfant, personne vous apprend vraiment à parler ni à marcher. C'est vous le faites parce qu'à un moment donné, vous êtes porté par ça. Et donc, le cerveau humain fonctionne comme ça, et ça veut dire qu'il faut donner du sens à ce qu'on fait. Et le travail seul ne peut pas constituer un sens suffisant parce qu'aujourd'hui, on va changer 10-15 fois de travail dans sa vie. Et donc, en fait, le développement des soft skills doit être porté par quelque chose de beaucoup plus grand, et le travail se trouve sur le chemin critique de ce développement.
Une vue long terme au sens large.
Oui, voilà, c'est vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'on veut finalement, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut accomplir dans sa vie, qu'est-ce que ça nécessite comme soft skill. On est en train de développer là chez Jobster un outil sur le sujet pour identifier ces soft skills et apprendre à les justifier auprès de recruteurs. Et pour les jeunes, parce que pour les jeunes, ils n'ont pas d'expérience. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que le truc était très mécanique, tout ça, et on a ajouté cette partie au départ, qu'est-ce que tu veux accomplir dans la vie ? Et ils sélectionnent parmi 60 réalisations inspirantes, des réalisations de vie, un peu comme des bucket list, sur lesquelles, derrière, on leur dit, pour faire tel truc, tu aurais besoin de plutôt tel soft skill. Donc, si tu as des objectifs de développement, favorise un objectif de vie plutôt qu'un travail en particulier. Également parce que développer soft skills, ça se fait sur le long terme.
Eh bien, merci beaucoup. Merci infiniment, Jérémy Lamry, Job Teaser, pour tes interventions, ta participation. Séverine, merci beaucoup. Je rappelle que tu es directrice régionale à Marseille chez LHH Recruitment Solutions. Et enfin, Laurent, merci beaucoup. Je rappelle que tu étais directeur général chez Badnock & Clark, l'entreprise qui précédait LHH Recruitment Solutions. Et quant à nous, on se retrouve très vite sur Conversation RH, le podcast RH éclairé entre experts RH. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à notre collection de podcasts pour être informé des prochains épisodes. À très vite.